Parole d'auteur, une émission de Anne Lasserre.
Il est des êtres qui ont plusieurs vies sur Terre. Quand j'étais lycéenne, la biographie de Beaumarchais m'émerveillait. Non seulement il avait écrit « Le barbier de Séville », « Le mariage de Figaro », mais il fut aussi musicien, horloger, homme d'affaires, agent secret. Il est à l'origine de la Société des auteurs, de la première loi en faveur du droit d'auteur. Je me demandais quelle fée s'était penchée sur son berceau. Et je me pose la même question à propos de l'auteur, qui est aujourd'hui dans les studios de Radio Présence à Toulouse, François-Henri Soulier. François-Henri Soulier, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai bien peur qu'une seule émission, même si elle dure près d'une heure, soit trop courte pour évoquer tous les sujets que je souhaiterais aborder avec vous. Les auditeurs comprendront tout de suite quand ils sauront que vous êtes écrivain, comédien, marionnettiste, scénographe, metteur en scène, scénariste. Pour le commun des mortels, plusieurs vies ne suffiraient pas. Est-ce que je n'oublie rien ?
Oh, sans doute en oubliez-vous un peu, mais je crois que j'en oublierai moi-même, parce que vous évoquiez la fée penchée sur le berceau de Beaumarchais, je ne l'ai pas connue. Mais pour ce qui est de la mienne, je crois qu'il s'agissait d'une fée assez brouillonne, un peu confuse, et en tout cas très enthousiaste. Voilà, très touche-à-tout. Alors j'ai hérité de tous ses défauts ou de ses qualités.
Oh, mais elle avait une belle baguette magique, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Oh, je ne sais
pas. Hors antenne, je sais que vous m'avez dit que vous avez
travaillé. J'ai travaillé beaucoup autour de la voix humaine, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc j'ai beaucoup travaillé pour Arte au moment où la chaîne était en création. Et on a essayé de trouver une couleur. J'ai travaillé avec les journalistes, avec les chroniqueurs, avec les interprètes, surtout d'Arte. Et ce qui m'a amené à, passionné par la voix humaine, à travailler pour les interprètes de conférences internationales, j'ai donc été amené à bosser avec des interprètes de l'OTAN, de l'ONU et du Vatican. Oui, des choses tout à fait étonnantes. Des gens extrêmement précieux pour moi, qui suis une éponge, puisqu'ils m'ont appris plein de choses, en géopolitique, en sciences humaines, etc. Des gens, hommes et femmes, absolument merveilleux de culture et d'un éventail de connaissances prodigieux pour le garçon que j'étais assoiffé de connaître.
Bon, ben, une fée brouillonne, beaucoup aimeraient en avoir connu une pareille penchée sur son berceau.
Oui. Disons que peut-être beaucoup de gens en ont. Peu y sont sensibles. Avec les fées, vous savez, il faut être vigilant, il ne faut pas les laisser s'échapper.
Alors, c'est l'écrivain que nous accueillons aujourd'hui. Avant de parler de votre dernier ouvrage, François-Henri Soulier, Angélus, qui est couronné par le prix France Bleu Grand Détective.
Oui, j'ai eu cette chance, cet honneur, puisque c'était la création du prix. Et je suis donc le premier à avoir recueilli ses lauriers, voilà, que j'espère transmettre en bon état à ceux qui me suivront.
Ça, moi, j'en suis persuadée. Et j'aimerais évoquer une série dans laquelle le jeune journaliste Kander Corsaro travaille pour le Courrier du Sud-Ouest. Il est le héros de nombreuses aventures, puisqu'on le retrouve dans « Il n'y a plus de passé simple »,« Le présent n'a plus le temps »,« Un futur plus que parfait », impératif imprévu. Mais tout d'abord, ce qui m'intrigue, c'est l'omniprésence du temps dans vos titres, avec des jeux de mots renvoyant aux conjugaisons, ce qui éveille chez le lecteur, du moins chez moi, de nombreuses connotations. Alors, pourquoi ces titres, François-Henri Soulier ?
Alors, vous touchez à deux choses qui, effectivement, titillent pas mal mon imagination depuis très très longtemps. À la fois la langue française, en l'occurrence la grammaire, avec les conjugaisons, mais surtout le temps. Le temps est vraiment chez moi une matière à songerie, à réflexion, j'oserais même dire à méditation absolument infinie, et qui me plonge parfois dans des espèces d'inquiétudes, mais à d'autres moments au contraire dans une sorte de ravissement. Enfin, c'est très mélangé mon opinion sur le temps, tout autant que celle que j'ai sur l'humanité.
Oui, on va en parler d'ailleurs dans un petit moment. Mais en plus, vous jouez avec les titres, vous vous amusez beaucoup. Par exemple, dans « Le présent n'a plus le temps », un auteur vient présenter un ouvrage qui porte ce titre.
Oui, ça c'est un gag. J'adore les choses emboîtées, j'adore les mises en abîme, j'adore les perspectives comme ça, un peu, comment dirais-je, les fausses perspectives. Et je trouve que c'était amusant de faire se croiser la créature et son créateur, si je puis dire en toute modestie. À un moment donné, dans l'escalier de la radio, où Skander se rend, il rencontre un homme qui sort d'une interview où il a parlé de son dernier bouquin. En l'occurrence, c'est moi. Et donc, c'est très amusant. Je m'amusais beaucoup de me décrire. Vous savez, un peu comme Hitchcock faisait dans ses films, en se mettant sur le quai de gare en attendant le train. Bon, on le croise quand l'héroïne descend du compartiment. Et je me disais que c'était assez marrant de faire cette fausse rencontre qui n'a pas lieu. Bien sûr, elle est impossible. Skander ne peut pas me rencontrer pour cause, ça serait vraiment très problématique. Peut-être essaierai-je d'aller plus loin une autre fois, mais ce n'est pas le premier. Dans un autre de ces petits livres, je m'étais amusé à me mettre en situation dans le restaurant où Skander a rendez-vous avec sa mère, et en regardant les gens autour, il décrit la salle et il me décrit au passage, vous voyez. Bon, c'est un clin d'œil. Certains lecteurs m'ont reconnu, d'autres non.
Voilà. Je pense que les lecteurs qui vous connaissent doivent vous reconnaître.
Tout ça, c'est pour rire.
Voilà. Et alors, même si c'est... si vos romans là, concernant les aventures de Skander Corsaro sont publiés par les éditions du Masque, éditions spécialisées quand même dans le roman policier, si je ne me trompe pas.
Oui, ça a été fondé en 1929, je crois, par Monsieur Pigasse, d'origine toulousaine d'ailleurs, et qui a eu ce monsieur a eu un flair extraordinaire, d'abord du titre de sa collection, Le Masque, parce qu'effectivement, derrière Le Masque, qu'y a-t-il ? Peut se cacher l'horreur ou la beauté. On ne sait jamais derrière un masque ce qu'il y a. Donc il a eu une très belle idée, je trouve, dans le choix de ce titre. Il en a eu une autre tout à fait remarquable d'un point de vue commercial cette fois, qui était d'acheter les droits d'Agatha Christie. Ce qui permet à cette bonne maison de continuer de vivre encore aujourd'hui sur les droits de la chère Agatha, qui tomberont, je crois, bientôt dans le domaine public, mais pour le moment, ça continue de rapporter. Voilà. Donc ça a permis au Masque de se développer et de promouvoir, au-delà d'Agatha Christie, toutes sortes d'auteurs, francophones ou étrangers, et donc actuellement, certains Français dont j'ai eu le plaisir de faire partie.
Oui, mais vous, François-Henri Soulier, vous revendiquez que ce sont... vous revendiquez le terme aventure pour vos romans. Roman d'aventure. Pourquoi ?
Disons que... Vous savez, c'est très bizarre. La première fois où j'ai écrit la première histoire, je l'avais écrite d'abord pour amuser mes amis, qui m'ont vraiment encouragé à la présenter à des éditeurs. Je me suis dit, mon Dieu, à quoi bon collectionner les lettres de refus, comme d'habitude, enfin, comme tout le monde. Et puis j'ai cédé à cette pression amicale et j'ai donc envoyé dans quatre maisons différentes un exemplaire de « Il n'y a pas de passé simple ». Alors, c'est vrai que j'ai eu diverses réponses, deux qui étaient franchement intéressées, une qui ne l'était pas. Et puis le masque m'a dit « Voilà, on va vous présenter à un prix, si vous avez le prix, on vous édite ». Bon, alors c'était curieux parce que dans ma lettre d'accompagnement, je disais « Voilà, un roman qui d'après moi est... plus rose que noir, mais enfin, vous déciderez vous-même de ce dont il s'agit. Sincèrement, je n'avais pas la moindre idée d'avoir écrit un roman policier. Et ça a été classé dans les polars, parce qu'il y a un mort, il y a une enquête, il y a donc, voilà, c'est un polar. Mon éditrice de l'époque avait ce mot tout à fait étonnant. Elle disait, de toute façon, quand il y a un mort, c'est un polar. Mais à ce compte-là, les trois quarts de la littérature sont des polars. Bon, mais donc j'ai accepté cette étiquette qu'on m'a un peu collé comme ça, tout à fait par hasard. Je me suis amusé à continuer d'en écrire, et puis je suis devenu une des figures du polar français aujourd'hui. Voilà. C'est complètement bizarre, tout ça en même pas 5 ans. Donc c'est une drôle d'aventure. Voilà. Ça reste une aventure.
Ça reste une aventure.
Et puis vous savez, j'aimais bien le Club des Cinq, j'aimais bien Arsène Lupin, j'aimais bien tout ça. Je crois qu'il y a un petit peu de ça dans mes bouquins. Hein,
alors,
ce ton.
Nous avons eu les mêmes lectures d'enfants, alors.
Peut-être appartenons-nous à une génération identique.
Et alors, vous aimez les mots.
Oui, j'adore ça.
Alors, dès le premier paragraphe, dans « Le présent n'a plus le temps », moi j'ai souri dès les premières lignes parce que vous entassez des expressions toutes faites que l'on emploie sans plus y penser. Je lis un petit passage. Maintenant que j'y pense, on aurait dû inviter une baleine. Il paraît qu'elles sont très douées pour la rigolade. Et compte tenu de ce qui s'est passé ensuite, un crocodile aurait été le bienvenu aussi, tellement il y avait de quoi chialer.
Oui, alors vous savez, ça, c'est une... je pense que, bon, j'adore la langue est ma patrie, les mots sont vraiment ma patrie profonde. C'est chez eux que je suis le plus à l'aise. Et je trouve qu'en même temps, la langue s'use. J'essaie, quand j'écris, d'enlever cette rouille de l'habitude et de rendre aux poncifs toute leur fraîcheur, toute leur naïveté, toute leur poésie première, dans lequel je disais de deux hommes qui ne se supportaient pas, et là ils se sont regardés comme chez les chiens quand ils sont en faïence. Vous voyez, bon, bien sûr, des chiens de faïence, c'est
et
banal,
oui.
Mais tourner la chose autrement... En renversant les termes, tout d'un coup, la chose apparaît toute neuve et drôle, justement, parce qu'elle est neuve, alors que c'est une vieillerie sans nom. 1000 personnes l'ont utilisée avant moi, des milliers. Et c'est oui. Ça le bonheur d'écrire.
Voilà, en quelque sorte, vous renouvelez effectivement des expressions toutes faites et qui, du coup, retrouvent toutes leurs saveurs.
Alors, vous savez, j'ai des grands maîtres dans le domaine. Hein. Quand même, quelqu'un comme Frédéric Dard a fait ça de façon incroyable. Quelqu'un comme Audiard aussi a été brillant. Enfin, toute cette époque des dialoguistes à la Boste, Orange, enfin, tous ces gens qu'on a oubliés aujourd'hui, mais qui ont été de magnifiques dialoguistes du cinéma français, avaient le bonheur du verbe. Chose qui nous est un peu reprochée aujourd'hui par une certaine intelligentsia de la critique qui reproche les mots d'auteur. Mais mon Dieu, à quoi bon ? Nous adorons les écrire, les comédiens adorent les jouer et le public adore les entendre. Pourquoi se priver de ce bonheur du mot d'auteur ?
Au contraire, oui.
Alors moi, j'ai décidé que je me fichais de la mode, que les critiques importaient peu, que ce qui comptait, c'était mon amusement. Parce que je pense que s'il m'arrive de m'amuser en écrivant, il risque de provoquer un amusement identique chez le lecteur. Et c'est ce que je souhaite.
Ça, je vous avoue que moi, je ris beaucoup, je souris toute seule quand je lis pratiquement à chaque page.
Alors parfois c'est un peu canaille, parfois un peu corrosif, mais la plupart du temps j'essaie d'être toujours bienveillant, même dans mes coups de patte qui ne sont jamais très griffus.
Voilà, alors justement, votre héros, François-Henri Soulier, Scandère Corsaro, est bienveillant. Et oui. Il me semble me souvenir que si c'était un animal, si la métamorphose existait, ou la métempsychose, il serait un Saint-Bernard. Mais de temps en temps, quand même, il porte un œil un peu sévère sur le journal dans lequel il travaille.
Oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être le problème des Saint-Bernard. Est-ce qu'il vous donne de l'eau de vie pour vous sauver ou pour rigoler quand vous êtes bien bourré après? C'est la grande question du Saint-Bernard. On ne leur a jamais demandé pourquoi ils faisaient ça avec leur petit tonneau autour du cou. Bon, il y a de ça chez Scandère, oui. Vous savez, il m'est arrivé, comme tout artiste, bien sûr, de faire appel à la presse, pour qui j'ai beaucoup d'amitié par ailleurs. Et parfois, on est un peu décontenancé quand on voit, surtout en province, le sort qui est réservé à ce qu'on appelle la culture ou l'art. C'est d'ailleurs pour ça que Scandère, jeune stagiaire dans ce journal, se trouve confié cette rubrique qui n'intéresse absolument aucun de ses confrères. Tous sont passionnés par le juridique, le politique, les faits divers, les sports, mais la culture, mon Dieu, quelle horreur! On va donner ça au petit jeune qui débute, il s'y fera les dents. Et lui, c'est merveilleux, pour lui c'est un territoire de liberté, il peut exploiter absolument tout ce qu'il veut, il prend sa moto et il fonce par monts et par vaux la découverte d'objets de culture ou plutôt d'art, puisqu'il s'agit un peu d'une chronique sur l'art, voilà.
Oui, alors mais en même temps, j'ai beaucoup aimé parce que la société actuelle est très présente dans vos livres. Ouais. Et Scandère Corsaro a un regard parfois bien acéré, et avec juste raison, à mon avis, sur la société actuelle.
Oui, je crois. Comment être tout à fait d'accord avec le monde dans lequel on vit, quelle que soit l'époque où l'on vive? Je crois que tous les esprits, un tant soit peu éveillés, ou qui avaient peut-être un sens critique ou un regard plus affûté, ont toujours critiqué leurs époques. Hein, rappelons-nous le au tempora homores qui date des anciens Romains, au temps homers. Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous avons matière à nous émouvoir, d'autant plus que, curieusement, aujourd'hui, par rapport aux époques précédentes, la sottise et la médiocrité bénéficient de porte-voix exceptionnels qui n'étaient pas à leur portée autrefois. Quand on disait des stupidités, autrefois ça se cantonnait aux 30 mètres autour du café du commerce, autour du comptoir du bar, et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Internet et tout le reste, cette sottise peut se répandre dans le monde entier, dans la planète entière, à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu inquiétant, d'un petit peu paniquant, à mon sens. Hein, il n'y a qu'à voir tout ce qu'on, à quoi on assiste, de fake news, de théories du complot, de que sais-je, dans tous les sens, et de vertus outragées, absolument hors de propos, alors qu'il y a effectivement des sujets graves, qu'il y a des vrais problèmes. Mais tout ça étant noyé, puisque tout est à part égale, hein, tout vaut tout, et toute parole enchaîne sur une autre, même si elle est de médiocre qualité. On écoute le dernier qui a parlé, donc on est un peu dans le confusionnisme à tous les étages, vous voyez. Et alors, je pense qu'en tant qu'écrivain, il m'appartient de dire là où ça gratte un peu, quoi, voilà, sans aucune prétention. Un livre n'a jamais changé la face du monde.
Quoique, et ce qui m'a aussi intéressé, parce que dans toujours le présent n'a plus le temps, mais je me suis dit, mais François-Henri Soulier est à la pointe de l'actualité, puisque ça se passe dans un cirque.
Et oui, un cirque
avec
des animaux,
éléphants.
Des éléphants, des tigres.
Des tigres. Et actuellement, on parle beaucoup.
Ah oui. J'ai appris qu'en 22, donc dans 2 ans et demi, 3 ans, les cirques n'auront plus le droit d'avoir des animaux en France. Bon, pourquoi pas. Quand j'ai vu certains metteurs en scène diriger certains comédiens, je me dis qu'on pourrait peut-être faire du cinéma ou du théâtre sans acteurs, ça leur éviterait de souffrir inutilement. Quand je vois ce qui se passe dans certains ménages, on pourrait interdire la vie de couple, parce que aussi il se passe des choses terribles. Enfin, au bout d'un moment, si vous voulez, le souci, l'empathie que je trouve très importante, moi-même je vis avec des animaux, je parle des animaux avec plusieurs pattes, avec des poils, vous voyez, des... pas des animaux dans mon genre, mais doit avoir des limites. Et ce que j'ai rencontré dans les cirques, que je mets dans le livre, ne m'a en rien choqué. Je suis désolé de le dire, je vais certainement m'attirer plein d'engueulades de tous les côtés, mais tant pis, à ce moment-là, il faut libérer les chats d'appartement, il faut laisser nos chiens errer tout seuls, parce qu'après tout, etc., etc. Et puis, je demande aussi à certains soucieux de véganisme, qu'allons-nous faire des troupeaux ? Devons-nous abattre toutes les vaches, tous les ovins, tous les bovins ? Ou devons-nous les laisser errer à la manière de certaines villes en Inde, dépérir de misère? Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Grande question.
En tout cas, vous parlez très bien du cirque et des animaux.
Oui, j'ai rencontré là des gens très courageux, gens vraiment des gens très dignes de respect et de sympathie. Et j'ai rencontré des tigres heureux.
Élevé
en cage.
Ça pourrait être le titre d'un livre.
Peut-être. Je sais qu'il y a eu des ours très maltraités, je sais qu'il y a eu des éléphants qu'on a fait souffrir, mais tout dépend des dompteurs, vous comprenez, tout dépend des directeurs de cirque, tout dépend de ce que l'on appelle le dressage. Mais ne devenons-nous pas nous-mêmes des êtres humains à la suite d'un dressage qu'on appelle l'éducation, l'instruction? Je crois qu'il y a des dressages heureux et d'autres qui sont violents. Il y a des dressages tendres et d'autres qui sont... cruel, voilà, c'est tout. Mais faire des généralités, une loi, une vérité, ça c'est une grande sottise, à mon sens.
Heureusement qu'il y a des Scander Corsaro pour nous le rappeler. Et Scander Corsaro est très cultivé. En quelques lignes, par exemple, il évoque le peintre polonais que je ne connaissais pas, Jan Stika, oui. Néron, Freud... Et tout ça, ça passe très bien. C'est très drôle.
Ce garçon qui a une vingtaine d'années a une culture un peu étonnante. Alors déjà, pour l'excuser, il a une maman qui est institutrice, donc qui est passionnée de culture. Il l'a baigné toute sa vie dans les livres. Et très sincèrement, même si ça paraît un peu bizarre, j'ai connu un ou deux jeunes hommes de ce type-là, qui peut-être n'allaient pas aussi loin. Mais j'ai connu un garçon diplômé de Polytechnique à 21 ans et qui était tout à fait capable de parler d'art japonais et de musique baroque, vous voyez. Donc ça existe. Bon, ça existe.
Voilà. Alors, je crois que vous pourriez peut-être nous lire, François-Henri Soulier, un passage tiré d'un autre livre, d'une aventure de Skander Corsaro. Je vous laisse peut-être présenter un petit peu le...
Oui, alors c'est la dernière aventure que j'ai écrite, éditée au Masque, donc qui s'appelle « Impératif imprévu ». Le nom d'ailleurs m'a été offert par un lecteur, parce qu'il y a des lecteurs, absolument le titre, des lecteurs tout à fait amusants. Et celui-ci m'avait envoyé un jour une liste de titres dans les conjugaisons de Corsaro. C'était absolument charmant.
Oui.
Et je lui ai dit, mais écoutez, je vous remercie. J'ai répondu en disant, je vous promets que je prendrai un de vos titres. Et donc, impératif imprévu n'est pas tout à fait de moi. Enfin, j'ai enlevé un article qui ne me plaisait pas, mais donc j'ai dédié le livre à ce lecteur tellement
Alors,
sympathique.
Impératif imprévu.
Qui lui traite de peinture.
Voilà. Mais il faut le prendre de quelle manière, sous quel sens, en quelque sorte.
Je crois que dès que nous sommes sur Terre, la vie est un impératif. Et je crois qu'elle est pleine d'imprévus. Donc je me suis amusé à marier ces deux choses. Alors, l'épisode, enfin le petit passage que je vais vous lire, se situe au moment où Skander a passé la nuit chez un collectionneur de tableaux. Et il se retrouve au petit déjeuner, dans la salle du petit déjeuner, avec une galeriste parisienne qui s'appelle Gabrielle Malfoy et un marchand d'art qui pour le moment n'a pas de nom, qui est surnommé le Grec parce qu'il est d'origine grecque. Donc ils sont tous les trois à table et cette dame prend la parole un moment et elle dit ceci. Si M. Corsaro s'intéresse au mystère, mon histoire devrait lui plaire aussi. C'est une chose très singulière qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. Si l'on admet que le diable existe, on doit aussi imaginer la possibilité de l'enfer. En ce qui me concerne, mon enfer personnel se résume à une chose parfaitement horrible qui tient en un seul mot, la réincarnation. Pour moi, le doute n'est pas possible. Je suis marqué par un karma épouvantable. Cela s'est passé... un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, où j'avais décidé de manger des haricots verts. La veille, j'en avais acheté une belle botte au marché, je les avais soigneusement préparées, en veillant bien à enlever les fils, je mets donc ma casserole d'eau à chauffer, et quand je sens que ça frissonne, je plonge mes haricots dans l'eau bouillante. Madame Malfoy a interrompu un instant son récit culinaire, on aurait dit qu'elle revivait la scène. Nous retenions notre souffle, elle a repris le sien, et là, j'ai entendu hurler les haricots. Instinctivement, le Grec et moi, nous avons évité de nous regarder. J'ai transformé en quinte de tout le spasme de fou rire qui m'étranglait, mais Gabriel Malfoy était tout à sa vision. Imaginez-vous cela, le cri de douleur des haricots ébouillanté, une horreur. Immédiatement, j'ai revu ce qui m'était arrivé en 1244. « Vous avez vécu au Moyen-Âge » ai-je réussi à articuler. « Oh, je me trouvais au château de Montségur, le jour fatal où l'Inquisition a brûlé ceux des cathares qui avaient refusé d'abjurer leur foi. J'étais au nombre des hérétiques. On m'a conduit au bûcher. C'est là que j'ai été dévorée, toute vive, par les flammes. J'ai tout revu, je vous dis. Le crucifix brandi devant nous par le prêtre exorciste, les visages de mes frères et sœurs baignés de larmes, tournés vers le ciel, et les poings dressés des exaltés qui réclamaient notre mort. Tout était là, avec le parfait relief de la réalité. C'était la grande leçon des haricots, et je me suis évanoui. » Nous avons pieusement observé une minute de silence, en mémoire des cathares et des légumes. Il fallait beaucoup se concentrer pour ne pas éclater de rire.
Parole d'auteur. Anne Lasserre.
François-Henri Soulier, nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission de votre dernier roman, Angélus, un roman de 500 pages dont on tourne les pages une à une avec le même bonheur, un roman que l'on ne peut abandonner. Donc Angélus est paru en mars 2020, c'est ça ?
Oui, au pire moment, juste 15 jours avant le confinement bien connu.
Voilà, dans la collection Grand Détective des éditions 10-18. Tiens, encore un titre qui a une connotation temporelle.
Bien sûr, puisque l'Angélus se sonne à ma connaissance au moins deux fois par jour. Enfin, celui du matin, celui du soir, je crois qu'il y en a même à midi. Mais bon, les plus connus sont... le plus connu, je crois, c'est celui du soir, avec le tableau de Millet, évidemment, qui fait partie de la culture française et de l'imaginaire collectif.
Donc, à peine paru, ce roman est couronné, nous l'avons annoncé tout à l'heure. Mais avec ce nouveau roman, tout devient différent. L'époque, le thème, l'atmosphère, le style. Nous sommes au mois de septembre, en l'an de grâce 1165, en Occitanie, plus précisément à Carcassonne, Narbonne et dans les environs. Alors François-Henri Soulier, pourquoi ce choix historique ?
Alors c'est toute une aventure. J'écrivais depuis déjà 2 ou 3 ans pour 10-18 à 4 mains avec mon ami le scénariste Thierry Bourcy. Et nous avons lancé une petite série qui présente les aventures d'un enquêteur et de son neveu à la cour de Rodolphe de Habsbourg en 1600 et quelques. Et nous les avons accompagnés ensuite en Angleterre, puis en France. Or, mon ami Thierry a arrêté la série parce que c'est un homme de cinéma qui est revenu vers ses premières amours. Et mes amis de 10-18 m'appellent en me disant « Écoute, est-ce que toi aussi tu vas nous quitter parce qu'on tient à toi ?» Bon, je dis « Écoutez, non, dit comme ça, j'ai envie de continuer. » Alors on me dit « Fais-nous une proposition. » Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer pour, à écrire tout seul sur un sujet historique, puisque j'étais dans cette série Grand Détective, qui est une série historique. Et j'avais envie de rester effectivement dans cette série très, très sympathique. Et j'ai proposé ce 12e siècle parce que je l'avais un peu exploré dans mes aventures théâtrales, en particulier avec mon ami le metteur en scène Guillaume Lagnel, qui est un grand spécialiste du patrimoine roman et qui a fait toute une œuvre théâtrale d'un théâtre de masques et de gestes autour de la sculpture romane en particulier. Donc j'avais acquis à son contact une certaine expérience de scénariste autour de cette époque. Je pense en plus que le 12e est une époque fantastique. Vous savez, on a tendance en France à parler de l'obscurantisme médiéval, faisant déjà du Moyen-Âge une espèce d'époque compacte, alors qu'en fait ça dure 1000 ans. Vous vous rendez compte ce qui se passe en 1000 ans. Et il y a une très grande différence entre l'an 500 et l'an 1500, vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, oui, oui.
Et particulièrement ce 12e siècle a été ce qu'on a appelé aussi la révolution cistercienne, où dans ces abbayes, donc fondées à Cîteaux, les types les plus brillants de leur époque se trouvaient refuge au milieu de la barbarie, de la violence du siècle. Derrière les murs des abbayes, ils avaient un espace de liberté pour se cultiver, pour lire les anciens, lire les Grecs, les Latins, et réfléchir aux choses du monde en même temps qu'ils s'occupaient des choses de Dieu. Et ces types-là étaient des grands intellectuels. Ils sont devenus des éleveurs de troupeaux, pratiquant le génie génétique, on pourrait dire aujourd'hui, améliorant les races lainières pour avoir une laine concurrente de celle des Flandres. Ils ont amélioré l'architecture. Ce sont eux qui ont inventé, par exemple, l'escalier à vis. Ils ont inventé le savon. Ils ont inventé les lunettes. Enfin, on n'imagine pas à quel point les abbayes étaient des centres de culture, de recherche, vraiment scientifiques, tout à fait extraordinaires.
Est-ce qu'ils ont... Je vous coupe 2 secondes, François-Henri Soulier. Est-ce qu'ils ont inventé aussi l'ascenseur ? Parce qu'il y a un ascenseur dans le jeu.
Ça, c'est une blague. Mais ils ont inventé des systèmes d'élévateurs, oui, effectivement, pour transporter des pierres. puisque certains d'entre eux devenaient tailleurs de pierre, imagiers, on disait à l'époque, et non pas sculpteurs, c'est-à-dire fabricants d'images en pierre. Donc il fallait soulever des blocs qui pesaient parfois plusieurs dizaines, voire centaines de kilos, et ils ont inventé des systèmes d'élévation des pierres tout à fait extraordinaires. Et je m'en suis inspiré en me disant, après tout, si on peut soulever 150 kilos de pierre, on doit pouvoir soulever le fauteuil d'un paralytique. Et on invente, ce faisant, l'ascenseur.
Et alors justement, vous parlez du tailleur de pierre. Alors, bon, moi je trouve que Angélus est d'autant plus passionnant que vous semblez avoir vécu à cette époque. Dites-moi,
alors, honnêtement,
est-ce que votre fée vous a transporté à cette époque ?
Je ne crois pas à la métempsycose. Je pense qu'il existe peut-être, je crois que certaines recherches scientifiques tendraient à le prouver, il existe une mémoire cellulaire qui dépasse de très loin la génétique immédiate. Il semblerait que nous puissions avoir des traces de nos très lointains ancêtres. À ce compte-là, pourquoi pas ? Tout en restant assez rationnel. Mais bon, non, le bonheur, en fait, c'est d'ouvrir l'œil. Vous voyez, je crois que quand on se promène dans notre région et dans la Narbonnaise, enfin l'ancienne province romaine autour de Narbonne, dès que vous gratouillez un petit peu la terre, le passé vous jaillit entre les doigts immédiatement. Il y a des mosaïques qui sortent, il y a des bouts de sculptures, il y a des statues, il y a des pans de murs, même dans lesquels on trouve des pierres de réemploi qui étaient le temple de Mars ou celui de Vénus. Vous voyez donc, vraiment l'Antiquité est là, et le XIIe siècle encore plus. On visite aujourd'hui des cloîtres qui sont à peu près en l'état où ils étaient sous Charles VII.
Et avez-vous été tailleur de pierre ? Parce que c'est extraordinaire.
Non, mais je suis parfois maçon sous l'égide d'un ami qui, lui, est tailleur de pierre, et que j'ai vu faire, que j'ai observé en train de travailler, et je trouve ça absolument passionnant. Bon, les outils, aujourd'hui, maintenant, on utilise des scies électriques, hein, l'effort n'est plus du tout le même, mais certains gestes, en revanche, sont restés totalement identiques de ceux des anciens artisans et travailleurs de la pierre de l'époque.
Alors, trois récits se développent parallèlement dans Angélus. Alors, c'est une construction remarquable. Ainsi, par exemple, les différents personnages subissent le même orage. Ou, parce que les événements sont vécus, ils le vivent avec un léger décalage. Il y a les uns qui aperçoivent un arbre foudroyé, les autres aperçoivent la forêt qui s'embrase, et dans le troisième récit, à l'abbaye de la Grassa, ben, on sonne l'alerte au feu. Alors moi, j'ai pensé à trois pièces de théâtre dont les différents actes se développent parallèlement et le dernier acte est commun.
Oui, c'est très touchant que vous évoquiez cette structure parce que vous savez, je suis effectivement un homme de théâtre depuis très très longtemps, depuis tout jeune, puisque j'ai découvert le théâtre à l'âge de 8 ans, et ça m'a très certainement impressionné et marqué ma manière de procéder pour raconter une histoire. Par exemple, je suis très fidèle aristotélicien, je crois que la structure en trois actes est très bien, c'est ce qui m'a donné cette idée de travailler avec trois personnages, et c'est vrai que ce décalage du temps, puisqu'ils ne sont pas aux mêmes endroits, et donc l'orage se déplace, les personnages se déplacent aussi, donc on le suit dans sa progression, et ça m'a paru intéressant de confronter les gens n'ont pas simplement à un problème intellectuel, à savoir ou sociétal, chercher un criminel, ça c'est leur questionnement, mais aussi à des problématiques tout à fait sensibles, comme la météo. Hein, tout d'un coup il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? On est dehors, on est à cheval, ou on est à pied, comment va-t-on se protéger ? Et ça entraîne des scènes, des situations, hein, bien entendu. Alors là, je dirais que je suis plus au cinéma qu'au théâtre, mais la structure narrative est effectivement celle d'une pièce, oui.
Oui, c'est remarquablement construit. Et alors justement, puisque nous parlons théâtre, alors certains personnages, par la grandeur de leur âme, leur pureté, leur force, rappellent les héros cornéliens. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Notamment, j'ai pensé à Polyeucte qui offre sa vie à Dieu. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'un grand nombre de personnages sont bienveillants, comme Scander Corsaro. Il y a Dame Aloïs, il y a le seigneur Arnaud de Fabressa, le chevalier Raymond de Termes, Jordi, le maître tailleur de pierre, l'apothicaire. Vous êtes d'accord avec mon analyse ?
Oui, j'ai beaucoup de doutes sur la bonté naturelle de l'homme. Je ne suis pas très rousseauiste de ce point de vue, mais je crois que nous avons tous une tendance naturelle au bien. Peut-être avons-nous aussi des pulsions, pas peut-être, mais certainement des pulsions vers le mal, mais elles sont plutôt de circonstances, elles sont rarement constitutives de l'être, dans ce que j'ai remarqué. On rencontre beaucoup plus de gens plutôt gentils, somme toute, et plutôt qui ont envie que tout se passe bien. Les vrais monstres sont très très rares, et même eux, on arrive à leur trouver, je ne dirais pas des excuses, mais des raisons. Ce n'est pas la même chose. Je crois effectivement, et c'est ce que j'essaie de montrer, que dans cette aventure humaine qui nous plonge dans le mystère absolu, le mystère d'être, le mystère de l'espace et du temps, le mystère de la conscience, nous avons la possibilité de rendre cette aventure heureuse et plaisante. Cela nous appartient totalement. Je crois à cette forme de libre arbitre qui est de décider si l'on veut le bien ou si on ne le veut pas ou si on s'en inquiète, voyez. Alors effectivement, bon, mes personnages essaient de porter ce point de vue. Mais vous citiez Corneille, je me sens peut-être malheureusement sur le plan philosophique plus près de Racine, mais je dirais que je suis plutôt, j'ai été très marqué par Bernanos et Monterland. Vous voyez, ces personnages, oui, comme le cardinal d'Espagne, ou la reine morte, ou les personnages du dialogue des Carmélites, que je trouve absolument prodigieuse, vous voyez, et qui s'accommodent d'un destin, même s'il est fatal, et s'en accommodent en essayant de le tourner vers le sublime. Et je crois beaucoup à cette idée que nous sommes des êtres ambigus, nous sommes... comme dit le maître, des âmes grises. Mais, dans cette grisaille, et même si nous avons les pieds dans la gadoue, nous l'orgnons toujours vers les étoiles.
Et il y a justement un enfant que j'ai trouvé extraordinaire, c'est Guillaume.
Ah, le petit
Guillaume, on dirait qu'il a la tête dans les étoiles, justement.
Et oui, disons qu'il a cette façon de déchiffrer le monde sans préjugés, comme le font les enfants d'ordinaire quand ils ne sont pas trop marqués par une influence que je dirais néfaste, moi, parce qu'elle casse leur imaginaire. Un enfant ne sait pas ce qu'est un loup et il va se jeter dans la gueule du loup spontanément parce que peut-être que ça peut devenir un ami. Et qui sait si un loup ne peut pas devenir un ami, hein ? Donc, je trouve dans l'enfance cette chose formidable d'accepter tous les possibles d'emblée, quitte après à revenir sur ses choix, enfin, ou à se faire une idée personnelle. Et Guillaume, pour moi, il est comme ça. Il regarde le monde sans a priori. Il y a des choses qui lui font un peu peur quand même, mais il pense que ça doit pouvoir s'apprivoiser. Et je trouve que c'est intéressant de montrer que l'enfance peut apprivoiser ses peurs. Et que si nous apprenions, nous, adultes, à les apprivoiser, le monde irait sans doute un petit peu moins mal. Donc cet enfant est effectivement porte-parole de quelque chose de très fort. Je crois à la puissance de l'imaginaire, je crois à l'immense liberté qui est apportée de main pour peu qu'on la désire. Malheureusement, il me semble constater que la plupart de mes contemporains non seulement ont peur de la liberté, mais ne l'aiment pas vraiment.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est le cadre historique. Donc, 12e siècle,
oui.
Ces personnages, on a vraiment l'impression qu'ils pensent comme au 12e siècle. Et vous avez réussi à écrire, enfin, c'est une forme à la fois moderne, mais on pourrait penser que c'est un récit que vous avez retrouvé, oui, écrit au 12e siècle.
Alors, c'est très gentil de dire ça. Je ne sais pas ce qu'une femme du 12e siècle dirait à votre place. Est-ce qu'elle serait d'accord? Mais bon, vous savez, j'ai relu d'abord Jean de Main, le roman de la Rose, qui est un petit peu plus tardif. J'ai relu Perceval de Galois, Chrétien de Troyes. J'ai relu la chanson de Roland. Donc, pour m'imprégner d'abord des modalités de l'expression des sentiments et ensuite de la manière dont les gens ressentaient les choses. Ce n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Alors, bien sûr, ils sont des humains comme nous, avec deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Leur façon de souffrir est assez voisine, leur façon d'être heureux l'est aussi. Mais les modalités changent quand même dans l'expression. Et j'ai vraiment essayé de travailler, non pas pour retrouver une langue d'époque, ça aurait été insupportable pour le lecteur et pour moi, mais une petite musique qui nous donne le sentiment que ça pourrait être comme ça. Vous voyez, une des choses toutes simples, si au lieu de dire « la nuit est froide et la montagne est mauve », je commence ma phrase en disant « froide est la nuit, mauve est la montagne », ça y est, il suffit de cette inversion. Et on est dans la chanson de Roland, vous voyez. Donc on peut, après, je peux développer des choses plus modernes dans la manière de les dire, mais la petite couleur est là, la petite touche, le sentiment historique est là. Voilà.
Oui. On est tous marqués par l'époque dans laquelle on vit. Et là, on voit bien que les personnages obéissent à des codes sociaux particuliers.
Déjà, ils ont cette omniprésence de Dieu. Que nous avons oublié dans notre quotidien, à moins d'être vraiment des personnes d'une très grande foi et très tournées vers la méditation. Mais la plupart d'entre nous va au supermarché, quand on remplit un caddie, on ne pense pas à Dieu. Alors que pour eux, du matin au soir, tous les actes se déroulaient sous l'œil du Créateur. Et donc, ça engageait une certaine responsabilité, qu'il s'agisse de s'habiller, de se nourrir, d'échanger avec les autres. C'était le rapport social, peut-être le plus important, était le rapport de l'individu avec la divinité. Après, le rapport de l'individu selon sa classe avec les supérieurs ou les inférieurs, puisque tout était très hiérarchisé, très codé, entre les militares, les gens d'armes, les clercs, les gens d'église ou de culture, et le peuple laborieux. Il y avait vraiment des codifications très très précises. Mais le premier interlocuteur était quand même Dieu. Donc ça, comment le faire passer aujourd'hui ? Dans une époque qui a mis une distance réelle entre elle et la foi.
Mais pourtant, on le voit très bien dans votre livre, vous avez su le faire passer. Et même ce Raymond de Termes, ce jeune chevalier, on dirait que vous êtes dans sa tête.
Oui, alors bon, évidemment, j'ai eu 20 ans, moi aussi, et puis j'ai monté à cheval. Donc, en étant cavalier, et en se souvenant de ça, je me dis...
Ah, vous avez oublié de le dire tout à l'heure.
Oui, ça fait partie de diverses choses, mais vous savez, je repasse très bien aussi, et je passe l'aspirateur. Non, voilà, ça fait partie de mes activités quotidiennes, mais peut-être pas quotidiennes. Mais disons que, vous savez, l'idée, c'est d'être le plus possible... perméable aux autres et de se mettre dans leur peau. Si on veut les décrire, si je veux faire parler une vieille dame, il faut d'une certaine façon que j'essaie de devenir une vieille dame. Et quand je veux faire parler un chevalier, j'essaie de devenir ce chevalier. C'est un jeu d'enfant, vous savez, c'est comme quand on est gamin. Hein. C'est pan, tu es mort, et hop, on tombe, on est mort. Mais non, on
n'est pas mort. Ce n'est pas donné à tout le monde, quand même.
Préserver l'enfant, c'est peut-être la grande qualité de l'artiste. Je crois que c'est ce qui nous sauve de beaucoup de doutes, de beaucoup d'inquiétudes, de beaucoup d'incertitudes. Si nous avons cette capacité de faire parler les arbres, les animaux, et a fortiori nos semblables, avec une voix d'amitié, ça peut nous permettre de rendre le monde fréquentable et la vie aimable.
Mais alors, vous l'avez dit quand même, beaucoup documenté. Alors, grâce à vous, moi, j'ai découvert des instruments de musique. Je ne connaissais pas la citole.
Oui. J'ai découvert aussi beaucoup de choses, vous savez, dans la documentation que j'ignorais avant. Hein.
La chalemie ou chalemie, je ne sais pas comment il faut prononcer.
On dira chalemie. En fait, ça donnait le chalumeau. Ah. C'était calamos en grec. C'était les premiers pipeaux faits dans des tubes de roseaux. C'est le chalumeau, hein, et qu'on voit d'ailleurs sur certaines peintures antiques, romaines, mais les Grecs déjà l'avaient, ça figure sur certains bas-reliefs. Ça a donné le hautbois, hein, par exemple.
Ah, d'accord. Et vous avez été apothicaire aussi, parce que...
Non, du tout. Mais là, je me suis vraiment documenté. Il y a toute une science de ce qu'on appelait l'alchimie. Alchimie, parce que c'est un mot arabe, qui nous vient donc d'Égypte au départ, et qui a traversé tout le bassin méditerranéen pour arriver aussi en Grèce. Mais l'alchimie est en fait, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup plus de la chimie, rudimentaire, expérimental, très, très empirique, bien sûr, à base de plantes, de minéraux et parfois d'animaux aussi. Mais c'était un questionnement de la matière et savoir comment cette matière pouvait servir l'humain. C'était des pharmaciens. D'ailleurs, le mot chemist en anglais désigne un pharmacien.
Hein. Ah, je ne savais pas. J'avais oublié.
C'est H-E-M-I-S-T, je crois. Et c'est un pharmacien. Oui. Donc, l'alchimie est une. Ce sont les débuts de la pharmacopée, hein, vraiment. La question de la transmutation des métaux et de la pierre philosophale transformant tout en or, je crois que c'est un abâtardissement de l'idée d'alchimie, dont le but sublime est la transmutation de l'homme vers la spiritualité, vers l'âme. C'est donc non pas la transformation de la matière en une autre matière, mais au contraire la transformation de la matière en esprit, et une spiritualisation, dirais-je, de l'âme. C'est pour ça d'ailleurs que l'on parle d'esprit, l'esprit de vin, en termes de chimie, hein, d'alambic. On fait de l'esprit, ce sont ce qu'on appellerait des huiles essentielles aujourd'hui. Et essentiel, il y a bien essence dedans. Hein. Donc tout ça, ça m'a beaucoup plu de montrer un alchimiste qui était en fait un chimiste, un savant de son temps et un apothicaire.
Et alors, je crois bien que vous m'avez dit hors antenne que vous poursuivez les aventures, parce que moi j'étais désespérée d'abandonner Dame Aloïs, d'abandonner Guillaume, d'abandonner... Et je crois qu'il y aura une suite.
Oui, alors Angélus ayant un certain succès, mes éditrices sont très contentes que j'écrive la suite. Et je suis aussi moi-même assez heureux de me replonger avec ces personnages, mais ils auront vieilli, hein, ça se passera 12 ans après. Et là, comme j'avais beaucoup travaillé sur les hommes, bon, il y a beaucoup de mecs dans Angélus, ça se passe dans des abbayes, il y a les tailleurs de pierre. J'ai décidé cette fois-ci de m'intéresser un petit peu plus aux femmes de l'époque, et en particulier à une femme absolument remarquable que l'histoire a oubliée, parce que l'histoire, la plupart du temps, est écrite par les hommes, qui s'appelait Ermengarde, qui était la vicomtesse de Narbonne. Cette femme était contemporaine d'Aliénor d'Aquitaine, mais Aliénor lui a soufflé la vedette parce qu'elle a épousé deux rois, un roi de France et un roi d'Angleterre. Donc évidemment, enfin, un roi des Français, un roi des Anglais. Pas tout à fait pareil, la France n'existait pas à l'époque. Et donc je me suis dit, cette pauvre Ermengarde, qui a quand même régné toute seule sur Narbonne pendant près de 50 ans, il serait temps de lui rendre justice, d'autant plus que sa ville était à l'époque, non pas la petite cité de province qu'on connaît aujourd'hui, mais une des villes majeures, un des ports les plus importants de la Méditerranée, une place bancaire et commerciale très très forte, et qu'elle avait affaire elle-même à forte partie avec tous les mecs qui guettaient l'héritage et qui guettaient son comté. Je lui fais dire d'ailleurs un moment, j'étais une proie à double titre, en tant que femme et en tant qu'héritière. Et donc elle doit se défendre contre tous ces gens qui ne lui veulent pas forcément du bien, mais qui en veulent à sa fortune, qui en veulent au comté de Narbonne, qui était une des places fortes les plus riches de l'époque. Voilà, alors j'écris beaucoup sur elle en ce moment. Ouais. C'est une femme qui
vous l'évoquez là un petit peu.
Oui, j'en parle un peu, mais brièvement. Très brièvement. Je regrettais de n'avoir pas pu amener mes personnages chez elle. C'était mon intention première dans Angélus. Je n'ai pas eu le temps. L'histoire voulait que ça se passe ailleurs. Et là, maintenant, j'ai décidé que ça se passait à Narbonne, au Palais Comtal.
Et alors, François-Henri Soulier, vous avez l'art de trouver les phrases à mettre en exergue de vos livres. Pour Angélus, vous faites appel à Émile Suran. Le Moyen-Âge, ayant épuisé le contenu de l'éternité, nous donne le droit d'aimer les choses passagères. Alors, pourquoi cette citation?
D'abord, Suran, depuis que j'ai exploré le désespoir de l'adolescence que nous connaissons tous, ce moment où nous trouvons que le monde est absurde parce que nous refusons simplement d'avouer qu'il est mystérieux. Et donc, Suran m'a beaucoup guidé, m'a beaucoup aidé, m'a redonné espoir, justement par sa causticité même, par son cynisme, dirais-je, par sa cruauté. Ça a été l'effet d'un coup de pied aux fesses. Et ça m'a dynamisé. Cette phrase qu'il dit semble être l'éloge du carpe diem, certes. Mais je pense qu'au travers du carpe diem, il y a aussi l'éternité. Contrairement à certaines critiques qui m'ont dit « Ah mais oui, vous réduisez l'humain à l'aujourd'hui », je dis « Mais non, 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 pas du tout, c'est par l'aujourd'hui et l'instant présent qu'on touche à l'éternel. »
Alors, François-Henri Soulier, J'avais bien dit qu'on ne pourrait pas aborder tous les sujets avec vous en une heure de temps.
Je suis trop bavard.
Parce que non. Vous êtes trop intéressant. Alors, c'est un fascinant voyage dans un autre temps que vous nous offrez, en compagnie de personnages que nous n'avons plus envie de quitter, ça je le redis. Et si, comme le dit l'abbé Guéric Digny, que vous citez, tous les livres que tu lis sont autant de jardins où tu te promènes, moi j'invite tous les auditeurs de Radio Présence à se promener en votre compagnie, que ce soit avec Skander Corsaro ou avec votre dernier ouvrage, Angélus. Et je vous remercie, François-Henri Soulier, d'avoir accepté de venir dans les studios de Radio Présence à Toulouse.
Eh bien, chère Anne, je vous remercie en retour très sincèrement, très profondément, et merci Radio Présence.